Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain.
Le récit d'Alan Wake est celui d'une histoire ancestrale, l'ombre contre la lumière. Une histoire vieille comme le monde, en fait. Et pour bien comprendre cette histoire, il vous faudra accepter que l'univers d'Alan Wake n'est pas constitué que d'une seule réalité, mais de plusieurs dimensions évoluant en parallèle. Ce qui ne veut pas dire que ces plans d'existence ne peuvent pas interagir entre eux, s'enchevêtrer, et ce sera justement tout le sujet de ce récit. Un récit qui prend place dans la petite ville de Bright Falls, au paysage accidenté et boisé, niché au nord-ouest de la côte pacifique des États-Unis. Bright Falls était à l'origine, en 1878, une compagnie minière, la Bright Falls Mining Company. Ce n'est que grâce à l'action conjointe de Hubert Biltmore, un trappeur, et Amos Gunderson, un pionnier de Tacoma, que Bright Falls est devenue la petite ville prospère qu'elle est aujourd'hui. Les filons de charbon étaient riches, mais l'activité extrêmement dangereuse, et dans les années 70, une éruption volcanique qui donnera naissance à Cauldron Lake a entraîné l'arrêt de toute activité minière dans la région. 32 mineurs périrent lors de l'effondrement des tunnels et leur inondation, et les installations minières font maintenant partie du patrimoine historique de la ville. Tout cela a contribué à faire de Bright Falls une ville emplie de mystères et de légendes urbaines, et il y a de quoi, puisque Bright Falls n'est pas une ville ordinaire, c'est une ville dans laquelle les histoires prennent vie. Peintures, chansons, romans, autant d'œuvres artistiques qui contribuent à renforcer une entité se cachant sous Cauldron Lake, à l'endroit où avait eu lieu l'éruption volcanique de 1970. L'ombre noire, une entité surnaturelle et extradimensionnelle, qui aura tendance à se matérialiser dans le monde réel lorsque l'on écrit à son sujet. Et plus le talent narratif et l'imagination de l'écrivain sera forte, plus elle gagnera en puissance. C'est dans cette optique que l'ombre noire utilise des émissaires, des humains, dont elle prend le contrôle pour arriver à ses fins. Dans le courant des années 70, un poète et écrivain du nom de Thomas Zane arrive à Bright Falls avec sa femme Barbara Yeager. Zane est un poète tellement talentueux que ses écrits vont réveiller l'ombre noire de son profond sommeil sous Cauldron Lake, et croyez-le ou non, mais ce sont les écrits de Zane qui vont donner naissance au récit qui nous intéresse aujourd'hui. Hello à tous, c'est Ludic, et bienvenue pour plonger avec moi dans l'océan d'Alan Wake. Tout commença par un rêve dans lequel Alan Wake est contacté par un homme en combinaison de plongée, qui lui apprend comment combattre les ombres et qui l'invite à rejoindre un phare qui l'aidera à dissiper les ténèbres. Quand Alan se réveille, il est à bord d'un bateau avec sa femme Alice en direction de Bright Falls. Alan Wake est un écrivain de romans à succès, très connu aux États-Unis, mais avec une personnalité complexe. Tendance aux soirées arrosées, aux drogues médicamenteuses, sa femme Alice tente tant bien que mal de gérer ce comportement autodestructeur. Et c'est donc Alice qui a eu l'idée de ses vacances à Bright Falls, qui elle espère permettront à Alan d'outrepasser son angoisse de la page blanche et le fait qu'il n'ait pas écrit de roman depuis son dernier succès, The Sudden Stop, qui mettait en scène la mort de son héros, Alex Casey. Une fois arrivé au dîner de la ville, Alan fait la connaissance de Rose, l'une de ses plus grandes fans, et de Rusty, le garde-chasse du coin. Un peu plus loin, il se fait alpaguer par les frères Thor et Odin Anderson, de vieilles stars du rock dans les années 70, membres du groupe The Old Gods of Asgard. Alors qu'il se dirige vers les toilettes pour récupérer les clés de son chalet auprès du propriétaire, Stucky, une vieille femme du nom de Cynthia Weaver l'invite à ne pas rester dans le noir. Cynthia semble en effet obsédée par la lumière et se balade toujours avec une lanterne. Mais plus effrayante encore, dans la pénombre, ce n'est pas Stucky qui l'attend, mais une autre femme portant une tenue de deuil et qui lui remet les clés du chalet. Le mauvais, manifestement, puisqu'alors que la voiture d'Alan et Alice s'éloigne, Stucky sort essoufflé, les clés en main.
« Attendez! Madame Wake! Vos clés !»
Alors qu'Alan et Alice s'installent tranquillement, une dispute éclate, provoquée par l'envie d'Alice de pousser Alan à écrire de nouveau. Alan s'éloigne du chalet quand Alice pousse soudain un hurlement et alors qu'il revient à grandes enjambées, Alan aperçoit sa femme au fond du lac en train de se noyer et plonge pour lui venir en aide.
Oh non !
Certains possédés conservaient des échos de leur ancien moi, mais ce n'étaient que les dernières convulsions d'un mort. Il ne restait d'eux qu'une coquille vide, remplie d'ombre. Dans la plupart des cas, ces marionnettes suffisaient aux manigances de l'ombre noire. Toutefois, pour les missions plus élaborées, comme pour l'écrivain, c'était différent. Elle avait besoin de son esprit. Plutôt que de l'engloutir entièrement, elle ne fit que l'envoûter.
Alan se réveille à l'intérieur d'une voiture accidentée, sans aucun souvenir des dernières heures et sans savoir ce qu'il est advenu d'Alice. Alors qu'il progresse pour tenter de contacter les secours, il finit par tomber curieusement sur les pages d'un manuscrit qui semble baliser son chemin. Un manuscrit intitulé Departure par Alan Wake, mais qu'il ne se souvient absolument pas avoir écrit. Chose plus étrange encore, le manuscrit semble prendre vie sous ses yeux, puisque les pages décrivent soit des événements passés, soit des événements à venir. Plus loin, et comme indiqué sur la page, Alan est attaqué par Stucky, le propriétaire du chalet, qui ne semble plus lui-même, ainsi que par toute une foule de possédés, des êtres humains contrôlés par l'ombre noire. Après s'être débarrassé de Stucky et avoir atteint une station essence non loin de là, Alan peut enfin appeler les secours et fait la connaissance de la shérif Sarah Breaker qui propose de l'emmener au chalet où se trouvait Alice. Mais stupeur, quand il arrive sur les lieux, le chalet a tout simplement disparu et selon la shérif Breaker, il n'aurait tout simplement jamais existé. Au petit matin, Alan est interrogé dans les locaux de la police. Mais il est réticent à confier ce qu'il a vraiment vu à la shérif Breaker, craignant qu'elle ne le prenne pour un fou. Il est alors contacté par un homme, prétextant avoir enlevé Alice et réclamant en retour une rançon, le manuscrit écrit par Alan. Alors qu'il s'apprête à partir seul à la rencontre du ravisseur, Alan fait la connaissance du docteur Emil Hartmann, qui gère un asile psychiatrique pour artistes à Bright Falls. Hartmann avoue à Alan que c'est lui qui a convaincu Alice de venir ici, persuadé de pouvoir soigner l'écrivain. Une dispute éclate entre les deux hommes quand Barry Wheeler, l'agent et meilleur ami de Alan, fait irruption.
Hey, que personne ne bouge, ôtez vos sales pattes de mon client!
Qui êtes-vous?
Je suis Barry Wheeler, son agent.
Après avoir fait le point avec Barry, Alan se rend seul au rendez-vous donné par le ravisseur. Et alors que ce dernier lui réclame l'intégralité du manuscrit, conscient de son pouvoir et de ce qu'il pourrait apporter, Alan voit rouge et se jette sur lui.
« J'ai créé quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé. »«
Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Où est Alice ?»«
Je veux l'intégralité du manuscrit, sinon je vais devoir lui faire très mal. »«
Si vous la touchez... Ah »
Le ravisseur disparu, Alan n'a pas d'autre choix pour le moment que de s'en retourner auprès de Barry. Ils reçoivent alors un appel de Rose, la serveuse du Odir Dinner, qui dit avoir retrouvé des pages du manuscrit. Mais Rose est en réalité sous le contrôle de l'ombre noire, par le biais de cette fameuse vieille femme aperçue par Alan bien plus tôt.
Bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue au Odir Dinner.
Excellent.
Thomas Zane s'amouracha de Barbara Jagger. Ce fut le coup de foudre. Elle était jeune, radieuse, belle et pleine de vie. Thomas n'avait jamais été un homme très heureux et elle avait tout changé, tout simplement. Pour la première fois de sa vie, Zane se sentait bien. Chaque chose qu'elle faisait était comme une pièce de puzzle dont il n'avait jamais remarqué l'absence. Et surtout, elle faisait venir les mots avec force et netteté. Barbara Jagger était sa muse.
Barry et Alan se rendent au mobilhome de Rose, déterminés à mettre la main sur le manuscrit. Barry avoue alors à Alan avoir fait des recherches dans les archives de la ville et lui parle d'un certain Thomas Zane, un écrivain comme lui, passionné de plongée et qui aurait disparu en même temps que le chalet de Cauldron Lake lors de l'éruption volcanique de 1970. Une semaine avant ces événements, la femme de Zane, Barbara Jagger, se serait noyée dans le lac et Barry finit en nous expliquant que tous ces articles ont été écrits par Cynthia Weaver, la vieille femme à la lanterne, qui aurait été très proche de Zane et Barbara. Laissant le passé de côté pour le moment, Alan et Barry s'installent dans le mobilhome de Rose, quand cette dernière les drogue à l'aide de somnifères introduits dans leur café.
Elle vient s'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière.
J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste.
Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière.
Remettez-vous au travail.
À son réveil, Alan trouve un Barry endormi et une Rose dans un état catatonique. Il entreprend de quitter le parc de Mobilhome quand il tombe nez à nez avec un agent du FBI du nom de Nightingale qui semble en partie contrôlé par l'ombre noire et rendu fou par ce qu'il sait du manuscrit, il est prêt à tout pour mettre la main sur Alan. Une course-poursuite s'engage alors entre l'écrivain et les forces de police, mais Alan finit par trouver un véhicule qui lui permettra de se rendre aux installations minières de Bright Falls, où doit se jouer une nouvelle rencontre avec le ravisseur. Alan finit par le retrouver, mais l'ombre noire est sur leurs talons. Alan est secouru des eaux par le docteur Emil Hartmann et il se réveille au sein de sa clinique. Alors que le docteur organise une petite visite de ses locaux, ses motivations commencent à nous apparaître de plus en plus claires. Hartmann est au courant de ce qui se passe autour de Cauldron Lake et il se sert des artistes de sa clinique pour tenter de contrôler l'ombre noire. Alice n'a donc jamais été enlevée. Tout cela était une mise en scène du docteur et de Mott, le ravisseur, pour mettre la main sur Alan et le pousser à écrire la suite du manuscrit. Plus intéressante encore, Hartmann était l'assistant de Thomas Zane dans les années 70 et il se servait déjà de Zane à cette époque pour écrire sur l'ombre noire. À la fin de la visite, Alan retombe sur les frères Anderson, qui sont des pensionnaires de l'asile et qui ont eux aussi contribué, après la mort de Zane, à renforcer l'ombre noire dans leurs chansons, ce qui a, on l'imagine, plus ou moins initié leur folie. Il semble confondre Alan avec Thomas Zane et indique alors lui avoir laissé un indice dans leur vieille ferme, baptisée Valhalla.
Il est pas assez cinglé, pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé? Il faut être fou pour connaître la folie.
C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici.
Le chaos généré par les frères et l'attaque de l'asile par l'ombre noire vont permettre à Alan de s'échapper, non sans avoir reçu l'aide de Barry. Les deux hommes entament alors un long chemin jusqu'à la ferme des Anderson, où ils trouvent une chanson jouée sur un tourne-disque. Find the Lady of the Night Gone Mad with the Dark. Barry et Alan comprennent qu'il s'agit d'une référence à Cynthia Weaver, la fameuse dame à la lanterne, et qu'elle détient certainement la clé de cette histoire. Alan fait alors un rêve plus que réaliste, au cours duquel il se souvient enfin de tous les événements ayant trait à sa perte de mémoire. C'est lui qui est à l'origine de toute cette histoire. Après la disparition d'Alice, déboussolé, Alan s'est laissé influencer par l'ombre noire, sous les traits de Barbara Yeager, feu la femme de Zane, qui l'a poussé à écrire une nouvelle histoire, une histoire qui ramènerait Alice, mais qui surtout permettrait à l'ombre noire de se réveiller. Mais dans un éclair de lucidité, Alan s'est écrit une porte de sortie, dans laquelle Zane lui viendrait en aide et qui lui permettrait de s'échapper de l'entre-noir où il était enfermé. C'est alors qu'est survenu l'accident de voiture qui a initié toute cette histoire et la perte de mémoire d'Alan. Tout est maintenant très clair, mais à son réveil, Alan est arrêté par l'agent Nightingale.
Tu l'as dit, James Joyce, c'est ta faute et tu vas le payer très cher.
Lui avait arraché le cœur, mais elle n'était pas morte. La chose qui avait le visage de Barbara continuait à fredonner des douceurs enrobées de poison. Il enfila sa tenue et détacha le monstre de la chaise. La chose dans ses bras se débattit faiblement, mais il tint bon. Il sortit à l'extérieur, sur la jetée, puis pénétra dans les eaux sombres, telle une étincelle de lumière descendant dans un puissant fond.
Barry et Alan sous les verrous, Nightingale entreprend d'interroger durement les deux hommes, tandis que la shérif Breaker tente de canaliser sa rage. L'agent du FBI s'immobilise brusquement quand il se souvient avoir déjà lu les événements se jouant sous ses yeux. C'est alors qu'il est emporté par une vague de l'ombre noire déferlant dans la station de police. Alan fait équipe avec la shérif Breaker et Barry pour prendre la fuite, et ils entreprennent alors de rendre visite à Cynthia Weaver le plus rapidement possible. Cynthia dévoile alors toute la vérité à Alan. Oui, elle était éprise de Thomas Zane dans sa jeunesse, et après que ce dernier ait perdu sa femme Barbara, il a peu à peu sombré dans la folie. De la même façon qu'Alan, et influencé par l'ombre noire qui avait pris les traits de Barbara, Zane a entrepris d'écrire une histoire qui lui permettrait de ramener sa femme à la vie. Quand il prit conscience qu'il ne servait que les intérêts de l'ombre noire, il était trop tard. Zane écrit une fin à cette histoire et se jeta dans les eaux sombres du lac, emportant l'ombre avec lui et errant pour l'éternité dans l'entre-noir. Mais Zane s'était laissé une porte de sortie. Il avait confié un objet à Cynthia Weaver, qu'elle devrait garder pendant toutes ces années. C'est Cynthia qui a aidé Alan tout au long de cette histoire, lui fournissant des armes et des indications avec la peinture jaune. Quant à Zane, il disséminait sur le chemin d'Alan les pages de Deep Arthur au compte-gouttes pour le mener vers la vérité. Quand Barry, Alan, Cynthia et la shérif Breaker arrivent enfin dans la chambre où se trouve l'objet laissé par Zane, ils tombent sur un petit interrupteur, baptisé Rupteur, et sur une page écrite de la main même de Thomas Zane.
Alan, 7 ans, luttait de toutes ses forces contre le sommeil. Lorsqu'il s'endormait, il se réveillait bien vite en hurlant, des visions de cauchemars plein la tête. Un soir, sa mère vint s'asseoir sur son lit et lui remit un vieil interrupteur. En activant le rupteur, comme sa mère l'appelait, une lumière magique s'allumerait pour chasser les monstres. Pour que ce talisman soit le plus puissant possible, sa mère ajouta qu'il lui avait été remis par le père d'Alan. Le garçon ne l'avait pas connu, et tout ce qui lui appartenait devenait merveilleux à ses yeux. Le rupteur serré dans sa main, Alan s'endormit enfin comme un bébé. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta.
Mon esprit bouillonnait. J'avais remis le rupteur à Alice, pourtant il était là. Zen l'avait créé dans une histoire que j'avais moi-même écrite.
Le jeu vient alors briser ici le quatrième mur et bousculer aussi bien les certitudes du joueur que celles du protagoniste. Où s'arrête la réalité et où commence la fiction ? Est-ce Thomas Zane qui a créé Alan Wake ou Alan qui a intégré Zane à son processus créatif et aura ainsi modifié le passé ? Le jeu souhaite évidemment que vous vous posiez ces questions. Si la vidéo te plaît et que tu ne veux pas louper les suivantes, pense à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et si tu souhaites également me suivre en stream, notamment sur Alan Wake 2 à partir de dimanche, tu peux me trouver sur Twitch sous le pseudo Ludic TV. Bon visionnage!
Envoûté par l'ombre noire, j'avais écrit une histoire d'horreur, mais il en manquait la fin. L'histoire était incomplète, et la dernière page inachevée du manuscrit était encore sur la machine à écrire du bureau du chalet. Si je pouvais y retourner, si je pouvais la lire, je pourrais écrire ma propre fin à cette histoire et sauver Alice.
Alan a en tout cas maintenant toutes les cartes en main pour venir à bout de l'ombre noire. De plus, il a compris quelque chose que Zane n'avait pas. Sortir de l'entre-noir exige des sacrifices, et l'histoire doit rester cohérente. Laissant Barry, Cynthia et Breaker derrière lui, Alan fonce vers Cauldron Lake et au bord du précipice, le rupteur fermement serré dans sa main, il plonge.
Vous devez aller jusqu'au chalet. Elle vous barre la route, elle ne vous laissera pas passer. Elle n'a pas de cœur. Les ténèbres l'habitent. Faites entrer la lumière dans son cœur. Ne faites pas attention, c'est Monsieur Grincement. Vos amis le rencontreront après votre départ. Utilisez le rupteur.
Zane entre alors en contact avec lui et lui présente Monsieur Grincement, son double qui prendra sa place dans le monde réel à la fin de cette histoire. Enfin face à face avec Barbara Yeager, Alan enfonce le rupteur dans son cœur vacant et l'éradique pour de bon. La dernière page de Departure est là, dans la machine à écrire, attendant qu'on vienne y apposer une fin, et Alan prend place au bureau, conscient qu'il devra rester dans l'entre-noir pour permettre à Alice de s'en extirper. Alice s'extrait de l'entre-noir et du lac en vie, élan à la recherche de Alan. Le calme semble être revenu dans la petite ville de Bright Falls, mais l'ombre noire a-t-elle véritablement disparu ? Ne restera-t-elle pas en vie tant qu'il y aura des gens à Bright Falls pour se souvenir d'elle ? Les contenus additionnels de Alan Wake, deux épisodes nommés Le Signal et L'Écrivain, n'apportent pas grand-chose de plus à l'histoire principale du jeu. On y suit un Alan tourmenté, prisonnier de l'entre-noir et qui tente tant bien que mal de trouver une porte de sortie. Ces épisodes mettent plus en lumière un combat de Alan contre lui-même, contre ses pensées les plus sombres, les souvenirs de sa femme Alice et son désir parfois d'abandonner. Aidé par Thomas Zane, qui agit toujours comme une lumière au bout de ce tunnel, Alan va réussir à vaincre ses démons intérieurs et on le quitte à son bureau, décidé à écrire une nouvelle œuvre du nom de Return, qui lui permettra enfin d'échapper à l'entre-noir.
Il était trop facile de se perdre dans l'entre-noir. Avant, j'étais prêt à me laisser mourir, à me laisser couler. Mais j'étais là, face à un avenir qui ne demandait qu'à être dévoilé. Une suite à Departure. Mon nom est Alan Wake, je suis écrivain.
Le spin-off American Nightmare, pensé comme une suite au jeu principal, est déjà un peu plus intéressant puisqu'il nous permet d'en apprendre plus sur ce qui se passe dans le monde réel en l'absence d'Alan et le devenir de Monsieur Grincement, le double ayant pris sa place. On y apprend par exemple que 2 ans ont passé depuis le sauvetage d'Alice, qu'elle a entrepris de rééditer ses romans et que Barry est devenu le manager des Old Gods of Asgard. Quant au jeu, on y suit un Alan tentant toujours de s'extirper de l'entre-noir, à l'aide de sa nouvelle œuvre Return, et hanté par Monsieur Grincement, qui l'enferme dans une boucle temporelle et s'avère être dans le monde réel un tueur en série.
C'est une waste de temps, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity.
No matter how many times you come back.
Il avouera ne pas avoir repris contact avec Alice, préférant la tourmenter à distance et menace de la tuer dans un futur proche. Alan finira par vaincre cette boucle temporelle et dans une scène finale, il aperçoit une vidéo projetée sur un écran géant mettant en scène des retrouvailles avec sa femme. Est-ce un rêve, une vision du futur ou tout simplement Monsieur Grincement prenant sa place ? L'univers de Control va faire de Alan Wake un événement ponctuel parmi d'autres, la part d'un ensemble plus grand, ou multiverse si vous préférez. J'insistais en début de vidéo sur la nécessité d'accepter la présence de plusieurs plans d'existence évoluant en parallèle. Et dans Control, les événements de Bright Falls et de Cauldron Lake sont présentés comme un événement de monde altéré, ou EMA, événement donnant toujours naissance à un objet de pouvoir, un objet habité par une entité surnaturelle. Le bureau de contrôle, financé par les États-Unis, est justement chargé d'étudier tous ces EMA et les objets de pouvoir associés, et dans le cas de Bright Falls, les objets de pouvoir étaient la machine à écrire que Alan utilisait et qui donnait vie à son roman, ainsi que le rupteur. Quant à Jessie Faden, la protagoniste, elle a aussi vécu dans sa jeunesse un EMA dans la petite ville d'Ordinary quand elle et son frère Dylan sont entrés en contact avec un objet de pouvoir, un projecteur à diapositive, le projecteur donnant naissance à autant de mondes parallèles qu'il y avait de diapositives à l'intérieur. Ce qui a contribué à libérer dans ce monde toute une panoplie d'entités extradimensionnelles. Polaris, celle qui habite Jessie, le Hiss, qui occupe le corps de son frère Dylan, mais on peut aussi évoquer l'entité incarnée par Hattie, le concierge du bureau. Et toutes ces entités semblent dépendre d'une force encore supérieure, le comité, représenté par une pyramide noire inversée et gérant le plan astral. La vérité, c'est que Jessie Faden n'est pas de notre monde. Elle n'est pas la sœur de Dylan, mais une version alternative de ce dernier, d'une autre dimension, et avec laquelle il était entré en contact via le projecteur à diapositive. Le twist étant que la dimension de laquelle vient Jessie est justement celle où se produisent les événements du premier Alan Wake. Qu'on s'entende bien, les événements de Bright Falls ont aussi eu lieu dans le monde de Control, mais avec de légères variations. Par exemple, Thomas Zane n'y est pas un poète comme dans le premier jeu, mais un réalisateur.
My name is Alan Wake.
Ce qui explique que dans l'extension de Control sortie quelque temps après, Jessie Faden entre en contact avec Alan Wake. Le pont, la passerelle entre ces différents plans d'existence, est un motel du nom d'Ocean View, et c'est par ce biais que Jessie va communiquer avec Alan, toujours piégé dans l'entre-noir. Alan écrit une nouvelle histoire dans laquelle Jessie affronte le docteur Emil Hartmann, qui a été capturé par le bureau de contrôle et qui est devenu le nouvel avatar de l'ombre noire. Là encore, le jeu vient évidemment questionner le joueur et bousculer ses certitudes. Est-ce Jessie et les événements d'Ordinary qui sont à l'origine du monde d'Alan Wake? Est-ce Alan qui a créé l'histoire de contrôle depuis l'entre-noir? Ou sommes-nous simplement en présence de deux réalités prenant contact et cherchant à s'entraider? Comme toujours, je vous laisse à vos propres interprétations.
If the alarm's true, then so is the reason for the alarm. The effect must follow the cause. It's happening again. A return. You have been warned.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir mon activité, vous pouvez le faire via la page Tipeee de la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.